Et là-dessus, on salue Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
C'est la chronique.
Californien, c'est pas local.
Non, mais ça nous fait rêver. Puis on parle de charrues passées dans le ciel et on aimerait que la charrue se passe aussi sur les rues, dans les rues. Alors, on y va avec une nouvelle. On revient sur le plancher des vaches. Oui. Ça va pas trop bien pour Lion Électrique.
Non, Lion Électrique, c'est une compagnie québécoise. À un moment donné, on le qualifiait soit de fleuron ou fleuron en devenir là, de l'écosystème économique québécois. Elle fabrique des autobus scolaires et des camions entièrement électriques. Donc, c'était novateur, c'était à la fine pointe. Et puis, Lion Électrique existe depuis 2008. Ça a pris du temps de développer les produits. Puis, on bénéficie d'un financement public pas mal généreux, là, surtout sous forme de prêts, mais il y a eu des subventions du gouvernement du Québec pour la recherche et développement. Mais ensuite, des prêts ou des investissements pour achat d'actions par Investissement Québec, des prêts du gouvernement de Québec-Ottawa, de Investissement Québec et de la Caisse de dépôt et du Fonds de solidarité FTQ. Donc, pas mal de financement public. Mais peut-être en milieu 2023, là, ça a commencé à moins bien aller, puis il y a eu des mises à pied à répétition successives, là, surtout à l'automne 2024. Puis finalement, en décembre, la compagnie s'est mise sous la protection de la loi sur la faillite. Elle a des dettes de plus de 500 millions de dollars américains. Et puis là, d'ici le début avril, on doit trouver un acheteur. Puis les acheteurs ont jusqu'au 7 mars pour se manifester. Donc, on espère trouver quelqu'un qui va racheter l'entreprise, possiblement éponger les dettes ou restructurer la dette, puis relancer l'entreprise. Parce qu'il y a quand même du bon dans Lion Électrique. Il y a des brevets, une technologie là qui semble avoir de la valeur, mais en ce moment, la compagnie est pas rentable. Donc, ce qui se passe ce matin, là, pourquoi on en parle, parce que c'est mis en décembre sous la protection de la faillite. Ce matin, on a annoncé qu'il y a un groupe d'investisseurs actionnaires qui ont déposé une requête pour un recours collectif contre la direction de Lion. La requête a été déposée à la Cour supérieure du Québec par un cabinet new-yorkais. Puis elle s'appuie entre autres sur le témoignage de 4 ex-gestionnaires de Lion qui ont fait ressortir c'est pas encore des faits parce que ça n'a pas été prouvé encore, là, mais des allégations qu'on surestimait les ventes ou le carnet de commandes, on surestimait la capacité de production, notamment de l'usine de Saint-Jérôme. On a exagéré la santé financière de l'entreprise, ce qui a fait que le prix de l'action était trop haut. Puis quand la vérité est arrivée, le prix de l'action a chuté beaucoup, d'où les pertes pour de nombreux actionnaires. Alors, c'est suite à ça qu'on essaie un recours collectif. Bon, on est loin de la coupe aux lèvres, va falloir prouver toutes ces allégations-là. Mais c'est ça. Ça semblait pas aller si bien. C'est pas la première fois que je lis des articles comme ça sur des problèmes de gestion chez Lion Électrique, là, des problèmes de qualité des véhicules. Donc, on va espérer qu'ils vont pouvoir s'en sortir, là, mais... Parce que, comme je disais tout à l'heure, la technologie, les brevets, je pense que ça, c'est des choses qui ont de la valeur. Mais ce qu'on se rend compte quand on regarde un peu toute l'aventure de Lion Électrique, c'est que c'est pas facile de passer de la table à dessin ou d'une idée à la commercialisation.
De la théorie à la pratique.
Ben, théorie à la pratique, puis c'est ça, je dirais, de la recherche et développement à la commercialisation. Ouais. On peut avoir un brevet, puis tout ça, on est peut-être capable de produire un bon prototype, mais après ça, le produire à grande échelle, c'est pas mal plus compliqué. Faut s'assurer que la qualité est là, qu'on a les reins solides quand il y a des choses qui font défaut sur des véhicules qui sont déjà en circulation. Puis ça me rappelle un peu cette histoire-là. C'est pas exactement pareil, mais Bombardier avec sa C-Series, on se souviendra que Bombardier a été obligé de céder la C-Series à Airbus. Ben c'est un petit peu ça aussi. Là, on a développé un très bon avion, mais de là à dire, OK, mettre l'idée en œuvre.
Un très bon avion, un très bon autobus.
Je parlais pour Bombardier.
Oui, oui, OK.
Bombardier, un très bon avion. Ici, un peu comme, je pense, un très bon autobus. Mais là, le produit de qualité, puis maintenir la qualité sur des milliers de véhicules produits, c'est plus compliqué. Puis Bombardier, ben, c'est un petit peu la même chose. Là. Je pense que... le génie québécois est à l'œuvre. On développe des produits, mais là, passer à la commercialisation, il faut avoir des reins solides. Puis là, c'est comme une autre étape. Des fois, on réussit, puis des fois, ben, c'est plus compliqué.
Et puis, un autre sujet maintenant, Michel, dans le secteur agroalimentaire, ce secteur qui se manifeste face aux menaces tarifaires.
Mais oui, le président Trump, on le sait, là, on a parlé quelques fois, menaces, puis là, même il y avait des articles hier, je pense, où Trump a affirmé que les tarifs étaient pour prendre place au début mars.
Il l'a confirmé, là, le 4 mars.
C'est ça. Bon, on est encore, il y a encore à peu près une semaine, là, mais il faut...
On verra bien, hein, il peut changer
c'est
d'idée.
Ça. Il a déjà changé d'idée une couple de fois, mais là, est-ce que c'est la bonne fois pour imposer les tarifs? On ne sait pas. On va voir. Mais les gens se mobilisent, puis justement, les représentants du secteur agroalimentaire, là, ils font front commun. Et puis essaie de mousser la sécurité alimentaire. Puis on a rencontré le ministre François-Philippe Champagne lundi soir, là, hier soir. Puis là, il essaie de un peu de... Bon, évidemment, chaque industrie, là, on parle de l'alimentaire, mais c'est un peu chaque industrie fait face au même problème. Mais le secteur alimentaire, agroalimentaire, c'est un secteur qui est très dépendant des importations et des exportations. Donc, on exporte 72% de notre production agroalimentaire vers... Ou en fait, non. 72% de nos exportations agroalimentaires vont vers les États-Unis pour à peu près 9 milliards. Qu'est-ce qu'on exporte aux Américains? Du porc. On sait que le Québec est très efficient là, pour la production de porc, des légumes, puis du sirop d'érable. Là, 62% de notre production de sirop d'érable va aux États-Unis. Donc, et on voit qu'il y a certains secteurs là, qui sont très sensibles. Puis, du côté des importations, ben, on achète... Pour produire cette production alimentaire-là, on achète des intrants, des engrais, des machines agricoles. Ça vient des États-Unis. Alors, ce que le secteur a peur, c'est que si le Canada riposte et à son tour met des tarifs de 25%, par exemple, sur les importations américaines, bien, ça va affecter le prix, les coûts des fermiers. Donc, non seulement... au niveau de l'exportation, ils vont exporter moins parce qu'il y a des tarifs américains.
Ça va les pénaliser.
Mais ils vont être doublement pénalisés avec les tarifs sur ce qu'ils servent pour produire. Puis ça touche l'agroalimentaire. Puis l'agroalimentaire, c'est large. C'est la même chose pour le secteur de la transformation. Là, un peu partout au Québec, on a des usines de transformation d'aliments. Puis souvent, la matière première, les fruits, les légumes ou les aliments qui vont dans la transformation viennent des États-Unis. Pas toujours. Il y en a quand même une partie qui vient des États-Unis. Donc, ce secteur-là aussi va être affecté. Ce qu'on demande, on dit faites attention aux ripostes, là. Le gouvernement veut riposter, donc il aimerait ça avoir une exemption de tarifs sur certains intrants. Une autre chose, puis ça c'est une demande, c'est pas nouveau avec les tarifs de Trump, on la réitère, là, on veut permettre plus de travailleurs étrangers, là, ce qui permet de dégager une certaine valeur ajoutée, parce que cette main-d'œuvre-là est peut-être moins coûteuse. Bon, il y en a qui pourraient parler de l'exploitation, mais je pense que ces travailleurs-là sont contents de venir ici, là, puis travailler, là, puis c'est un emploi que, malheureusement, il y a peu de Québécois, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, mais peu de Québécois veulent faire. Et puis, on demande finalement une aide financière directe, là, pas des prêts, là, on ne veut pas s'endetter plus. Bon, le secteur alimentaire n'est pas le seul à demander de l'aide au gouvernement ou discuter avec le gouvernement là, suite à la menace tarifaire des États-Unis. Alors, il faudra voir ce que le ministre va être capable de faire. Peut-être qu'on peut mentionner l'autonomie alimentaire. On en a parlé beaucoup pendant la COVID, mais là, ça revient sur la table pour une toute autre raison, une raison économique là, qui ces tarifs-là. Peut-être la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout le monde réalise qu'il y a un intérêt grandissant des consommateurs pour l'achat local. Là, autant les représentants des épiciers se rendent compte que les gens posent des questions, regardent les étiquettes pour voir d'où les produits viennent, puis on veut favoriser l'achat local. J'ai même vu, j'ai pas eu le temps de lire l'article. Je pense que j'ai vu un article où on disait qu'il y avait même une application où on peut scanner le code barre d'un item pour savoir sa provenance. Parce que c'est pas toujours écrit. Des fois, on voit.
Non, c'est pas évident toujours.
Par une compagnie de Toronto ou de Montréal, puis tout ça, mais on sait pas où ça a été produit, là. Puis apparemment, il y a une application, là, que j'ai pas regardée, mais qui nous donnerait un complément d'information là-dessus.
Bon, la prochaine fois qu'on va aller faire notre épicerie, on va être attentif à ça.
Et, ben, il faut.
Oui. Il y a aussi des lettres, entre autres, Lucien Bouchard qui parle aujourd'hui, là. Notre avenir est avec les États-Unis. Il espère que les Québécois et les Canadiens, comme leur gouvernement, vont privilégier une réponse rationnelle à la guerre commerciale que veut lancer Trump, l'administration Trump. Il estime que cette bataille se gagnera ultimement dans l'opinion publique américaine, qu'on ne doit pas se mettre à dos.
Non, ben je pense qu'il y a un peu raison. Veux pas. Il y a une raison pourquoi on est important ou exportant vers les États-Unis, c'est que c'est facile. Les Américains, c'est un marché de 350 millions de consommateurs. Si on a beau dire, ben on va faire plus de commerce à l'intérieur du Canada, mais à Toronto, ils sont 10 millions. Là, aux États-Unis, ils sont 350 millions. À New York, ils sont 15 millions. Donc, tu sais, il y a des liens économiques qui se sont tissés, qui renforcent l'économie de tout le continent nord-américain. Donc, on va espérer que, justement, l'opinion publique américaine va réagir parce que ces tarifs-là, ça va leur faire mal à eux aussi. Mm-hmm. Il y a des entreprises américaines. Donc, on espère que tous ces gens-là vont venir à leur
sens. À la raison.
Ouais. Et puis, justement, faire des pressions sur l'administration américaine. Mais peut-être aussi, ça nous dit que, évidemment, le marché américain est tentant, mais il faut peut-être essayer de diversifier un peu nos sources. C'est sûr qu'on ne pourra jamais remplacer les Américains et dire on va tout envoyer en Europe, là, ça ne marchera pas. Les coûts de transport sont trop élevés. Là, on a des chaînes d'approvisionnement avec les États-Unis, mais peut-être qu'il va falloir les diversifier un petit peu. Puis c'est une des leçons qu'on avait tirées de la COVID également.
Ouais, plus de productivité. Merci beaucoup, Michel.
Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.